parole de Dieu avait quatre caractéristiques importantes. La parole de Dieu est vivante, efficace, tranchante, pénétrante. On a vu que, étant créés à l'image de Dieu, nos paroles aussi peuvent avoir un peu de tout ça, et surtout qu'elles ont un grand potentiel, potentiel de vie, potentiel de mort aussi. Dans la partie 2, que notre langue est comme une lame dans notre bouche et qu'on doit apprendre à bien s'en servir. Dans la deuxième partie, on a vu avec l'exemple d'Israël dans le désert que 10 hommes qui étaient, on parlait au dîner, qui étaient quand même pas des deux de pique, là, ces hommes-là. Quand ils ont fait le rapport là, que c'était épeurant, c'était peut-être fondé, là. Oui, c'est vrai, c'était épeurant. C'était des hommes quand même d'expérience, que Israël avait les tribus avaient choisi eux-mêmes. Alors, chose certaine, c'était des hommes d'influence qui ont entraîné la perte de tout le peuple. On a vu donc que nos paroles ont une grande portée et que nous devons choisir d'avoir des paroles de vie pour nos proches. Et là, je suggère deux remèdes aux mots de nos mots. Les deux remèdes, c'est des choses qui m'ont... C'est pendant l'été, le Seigneur m'a beaucoup parlé personnellement sur la valeur, surtout du silence. Mon premier point, c'est de s'exercer au silence et à l'écoute. Parlez moins. Parlez moins. D'autres remèdes sont possibles. Je parle d'un trempage biblique. Et je parle du silence. D'autres remèdes sont possibles. J'ai choisi ces deux-là. Et je veux encore voir l'exemple d'Israël. Le premier verset qui est mentionné, c'est Exode 14:14. Cet épisode-là, ce qui est relaté dans ce verset-là, fait référence à la première, au tout début, quand Israël a quitté l'Égypte. Donc, contexte, le peuple est dans le désert, poursuivi par l'armée de Pharaon. Il est stoppé par la mer Rouge devant. La mer s'étale devant eux et déjà là, ils commencent à se lamenter et ils regrettent. Ils regrettent d'être sortis. Et là, ils disent à Moïse, « C'est parce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Alors, oui, à un moment donné, il avait dit, « Garde, le Pharaon est trop dur envers nous, arrête. Ça attire notre malheur, tout ce que Dieu est en train de faire en Égypte, sur l'Égypte. Ça nous attire des ennuis. » Sauf qu'Israël était en train d'être anéanti. Enfin, c'était le projet de Pharaon, d'éviter que le peuple se multiplie, sinon il craignait que le peuple se soulève. Il tuait les bébés garçons, qu'un peuple finit par s'éteindre. Et le plan de Dieu était justement qu'Israël ne soit pas anéanti, parce qu'il avait fait des promesses à Abraham. Donc ils se plaignent, et Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Moi, je le trouve poli. Moi, j'aurais dit, « Quant à vous, arrêtez de chialer. » Ou, « Quant à vous, taisez-vous. Fermez-la. » Il y a aussi d'autres mots, mais vu que c'est enregistré, je ne les dirai pas. Garder le silence, c'est se la fermer. Il y a un temps pour toute activité sous le soleil, nous dit Ecclésiaste 3. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Proverbe 11:12. L'homme qui a de l'intelligence se tait. C'est faire preuve d'intelligence que de se taire. Proverbe 17:28 nous dit, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Un remède aux mots de nos mots, c'est d'apprendre à se taire pour mieux écouter l'autre. Pour mieux écouter Dieu, pour mieux écouter l'autre. Je vais vous parler un peu de Job. Job, si vous connaissez son histoire, a été très éprouvé. Dieu a dit de Job à Satan qui est venu se présenter devant Dieu. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu n'a probablement pas dit, hey, as-tu vu mon serviteur Job? Probablement que l'Éternel savait que Satan avait déjà posé les yeux sur Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. C'est ce que Dieu pense de Job. Puis Satan qui dit, est-ce que c'est de façon désintéressée que Job craint Dieu? Enlève-lui tout ce qu'il possède. On verra. Alors Dieu relève le défi, parce qu'il connaît Job. Et Satan porte la main sur toutes les possessions matérielles de Job, ainsi que sur ses enfants. Job perd tout, sauf sa femme. Et là, il ne dit rien de mauvais. Il loue l'Éternel. Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Mais là, plus tard, Satan revient. L'Éternel dit, as-tu encore mis ton regard sur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, il craint Dieu, il se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Touche à son corps, tu vas voir, il va te maudire en face. Ok, tu peux l'attaquer, mais tu n'y enlèves pas la vie. Dieu connaissait Job. Alors là, Satan frappe Job d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prend un tesson pour se gratter et s'assoit sur de la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » C'est ce que la femme dit. On peut le dire, là je l'ai dit de façon neutre, on peut le dire sur toutes sortes de tons. Il n'y a pas de point d'interrogation là, dans les Écritures hébraïques. Là. Et là, Job lui dit, « Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. » Si vous connaissez l'histoire de la femme de Job, on a souvent parlé en beaucoup de mal de la femme de Job. Cette seule phrase qu'elle a dite, elle l'a poursuivie tout le temps, la pauvre. C'est une femme qui a vu de près la souffrance de son mari et qui a peut-être voulu, moi je dirais dans un moment de faiblesse, lui dire, garde, cède, qu'on en finisse, c'est trop. Et Job lui dit, tu tiens le langage d'une folle. Il n'a pas dit t'es folle, il n'a pas dit t'es stupide, mais il dit tu parles comme une folle. Puis peut-être qu'il aurait dit, tu parles comme une folle, mais d'habitude, tu ne me parles pas de même. Dieu, il nous donne le bien. Il faut aussi accepter les épreuves. Plus tard, les amis de Job arrivent. Ils passent 7 jours et 7 nuits assis par terre, à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Des fois, on a beaucoup de souffrances. Et la seule chose que l'on peut dire, c'est juste rien. Entendre. Et parfois, c'est bien de se taire. Les amis de Job ont fait preuve d'une grande sagesse en se taisant. Mais après, ils ont ouvert la bouche. Job 13. Alors là, Job parle, puis Eliphaz parle, puis Job parle, puis un autre parle, puis un autre parle. Donc, c'est ça, c'est l'histoire de Job. Et déjà, juste au chapitre 13, Job dit, « Quant à vous, s'adressant à ses trois amis, vous étalez des mensonges, vous êtes tous des médecins sans valeur. Si seulement vous aviez gardé le silence, vous seriez passés pour des hommes sages. » Job a été très sévère envers ses amis, et il n'a pas eu la même sévérité envers sa femme. Les amis de Job auraient été mieux de se taire ou de partir que de dire tout ce qu'ils ont dit, qu'on voit dans les chapitres. Parce que je veux vous parler de l'importance du silence, mais pas d'une façon absolue, dans le sens « je ne dis plus rien ». Ce n'est pas ça l'idée. C'est qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Puis peut-être plus souvent qu'autrement, mieux vaut se taire et faire attention, puis bien choisir les mots et le moment pour les dire. Job a dit à sa femme, « Tu parles comme une folle, mais je le sais que tu n'es pas folle. » Il a dit à ses amis, « Si vous vous étiez fermé la bouche, peut-être qu'on aurait pensé que vous êtes sage. » Mais vous ne l'êtes pas. Et les reproches de Dieu, à la fin du livre de Job, sont assez forts. Parce que Dieu ne dit pas un seul mot à propos de la femme de Job. Il ne fait aucun reproche à la femme de Job. Mais il dit, « Je suis en colère contre vous trois. Parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. » Le verset suivant, « Vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. » Pourtant, Job, il s'est lamenté. Job s'est apitoyé, il a exprimé ses doutes et son angoisse. Mais les trois amis n'ont pas parlé correctement de Dieu comme l'a fait Job, qui, pourtant, a exprimé ses doutes, a exprimé son incompréhension. C'est difficile de savoir quand se taire. Peut-être que Job aurait été mieux de se taire, mais Dieu ne reproche pas à Job d'avoir parlé. Dieu a rétabli Job dans sa situation. Dieu a accordé, on voit ça dans le chapitre 42, Dieu a accordé à Job le double de ce qu'il avait possédé. Ses frères, ses sœurs, ses connaissances, tout le monde est revenu autour de lui, ses brebis, ses chameaux, tout, il y a eu tout ça encore plus qu'avant. Puis il y a eu de nouveau 7 fils et 3 filles. Tout porte à croire que c'est avec la même femme. Il n'est pas question dans Job que Dieu a fait périr la femme de Job pour y en donner une autre. Ce serait comme extrapoler un peu trop là, que de tirer cette conclusion-là. Le texte porte plus à croire que c'est la même femme. Quand je parle du silence, ça n'exclut pas la prière et les lamentations. Puis dans un contexte comme celui, par exemple, de la femme de Job avec son mari, qui lui a parlé, il a été capable de la reprendre. Puis il y avait une relation entre les deux, parce qu'on voit dans Job, au chapitre 19, que sa femme était toujours tout près de lui. Parce qu'il dit, « Mon haleine est repoussante pour ma femme, et je provoque le dégoût de mes propres frères. » Quelqu'un qui est malade a une haleine difficile à supporter. Quelqu'un qui est très malade. Et sa femme était tout près de lui. Et ça devait être dur. Sa femme est restée là. Quand elle a dit à Job, « Dis donc, Dieu et meurs. Lâche tout. » Probablement qu'elle-même était à bout. Alors, ce n'est pas ce genre de choses-là. C'est pas de ce genre de choses-là dont je vais vous parler. C'est des paroles creuses qu'on peut parfois prononcer et qu'il vaudrait mieux taire. Apprenez à vous taire pour mieux écouter l'autre. Pourquoi on a souvent tendance à tant parler? Est-ce que tout ce que je pense a de l'importance? Est-ce que c'est nécessaire que je communique toutes mes pensées à voix haute? Une des choses que je reproche dans les Facebook et choses du genre, mais j'en ai pas de Facebook, c'est facile pour moi, c'est qu'on commente les commentaires. On commente la photo d'eux, puis là je commente parce que j'aime ton commentaire. Puis on fait plein de commentaires, puis ça va tellement vite les envoyer sur Internet. tellement vite qu'on oublie que c'est creux, puis qu'on pourra peut-être employer notre temps à quelque chose de mieux. C'est pas nécessaire de dire tout ce que je pense. J'ai pas toujours des bonnes choses dans la tête. Une bonne part de mes pensées est sans grande portée. Une bonne part de mes pensées est négative. Une bonne part est fausse. Qu'est-ce qui reste? Une part qui est bonne. Et c'est celle-là. C'est celle-là que je dois apprendre à communiquer, à petite dose avec discernement. Et moi, je dois chercher à faire grandir en moi cette part de bonne pensée. Mais il y a trop de paroles inutiles qu'on dit. C'est creux. Et les gens ont soif d'entendre des bonnes paroles. Les gens ont soif d'entendre des bénédictions, des bons mots. Ils ont soif d'entendre des encouragements. Est-ce qu'on peut être celle par qui ces encouragements-là viennent? Mais il y en a peut-être parmi vous qui disent, « Oui, mais moi, j'ai personne à qui parler. Je suis tout le temps dans le silence. » C'est vrai. C'est possible. Écrivez. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu, ça se fait à voix haute. Interrogez-vous. Est-ce que peut-être les gens me fuient parce que justement ce que je dis n'a aucune valeur? Est-ce que peut-être les gens me fuient parce que ce que je dis est toujours négatif? C'est toujours des critiques qui sortent de ma bouche? Peut-être que les gens me fuient. Il faut s'interroger. Si c'est pour cette raison que vous n'avez personne à qui parler, renversez la vapeur. Rien ne vous empêche de commencer à prononcer la vie. Tranquillement. Si vous commencez à prononcer la vie aux gens, tranquillement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui parlent. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces paroles-là. Bien entendu, ne vous attendez pas à ce que vous écoute. On peut prononcer la vie sans s'attendre à ce que l'autre se mette à s'intéresser à moi. OK? Il ne faut pas être le centre. Changez la teneur de vos propos si c'est une faiblesse chez vous. Je parle de s'exercer au silence et à l'écoute. Il faut cultiver un silence attentif, actif et intentionnel. Proverbe 37, le verset 7a nous dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Garder le silence devant Dieu, ce n'est pas simplement se coudre les lèvres. C'est aussi taire nos pensées pour être à l'écoute. Écoutez vraiment. Garder le silence devant l'Éternel, c'est taire le bruit de nos pensées pour être à l'écoute. Luc 8, 18, c'est une exhortation de Jésus, un avertissement qui dit « Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. » Jésus a souvent répété que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende 8 fois dans les évangiles, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Apprendre à écouter. Dans les Lamentations, Jérémie, si on poursuit notre petite histoire du peuple d'Israël, ils ont fini par conquérir le pays promis avec des mises en garde de la part de Dieu. Ne vous mettez pas à pratiquer ce que les peuples font. Obéissez à ma loi. Vous allez rester là longtemps. Ils ne l'ont pas fait. Des juges, des rois se sont succédés. Israël a été coupable d'idolâtrie à de nombreuses reprises. Ils se sont détournés de Dieu. Dieu avait averti, je vais vous chasser de ce pays. Ça continue. Et c'est ce qui vous pend au nez. Et c'est ce qui est arrivé. Et Jérémie a prophétisé au peuple d'Israël alors que la déportation était imminente. Il a assisté à la destruction de sa ville. C'est un prophète qui a parlé dans le vide pendant 40 ans. Et là, il se lamente. Les Lamentations, c'est 5 chapitres, les Lamentations. 5, excusez. Alors là, c'est ce que je veux vous dire. Cultiver le silence et l'écoute n'exclut pas les prières et les lamentations. Je suis l'homme qui a vu la misère. Là, je veux que vous voyez la douleur de Jérémie. Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies, il m'a mis en pièces, il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme une cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères, il m'a enivré d'absinthe, il a cassé mes dents avec des cailloux, il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand on sera rendu là, souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Et là, on peut imaginer un long silence. Quand on lit la Bible, on lit toujours trop vite. Un long silence. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le répète, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse, qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose, qu'il mette sa bouche dans la poussière. Il y a peut-être de l'espoir. Job énumère toutes ses douleurs. Il parle de ténèbres, de chair qui dépérit, ses os brisés, des murs érigés contre lui, et physiquement, il a été très maltraité. Il parle d'être emmuré, ses chaînes alourdies, sa prière est enfermée. Puis là, il y a un éclat de lumière. L'éclat de lumière, il surgit comment? Comme ça, là, au milieu de ma plainte, il a fallu que je me taise. Là, il parle à Dieu, souviens-toi de ma détresse. Puis là, Jérémie exprime sa volonté. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. C'est sa volonté qu'il exprime. Alors, attendre en silence, est-ce que c'est un silence qui est résigné? Est-ce que c'est un silence qui est agité? Un silence arrogant, coléreux, défiant? Oui, je garde silence, puis mieux d'agir. Non. C'est un silence attentif, plein d'attente, respectueux. Et c'est ça, prier. Est-ce qu'on enchaîne des mots? Des plaintes, des pétitions, des questions, puis c'est une conversation à sens unique? Est-ce que je vais supplier Dieu, mais je ne m'arrête pas pour entendre ses réponses? Dieu ne crie pas. Dieu chuchote. Et si le flot de mes pensées est tel qu'il y a du bruit dans ma tête, je n'entendrai pas Dieu me chuchoter ses réponses, ses consolations, ses promesses. Puis on pense que les réponses de Dieu, ça va être un changement de circonstances. Je te supplie, Seigneur, puis whoop, tout d'un coup, ça arrive, les choses bougent. Non. Si je demande à Dieu sa paix, sa joie, sa sécurité, il ne le fera pas nécessairement en changeant mes circonstances. C'est sa parole qui va t'apporter la paix. C'est ses consolations, c'est son Saint-Esprit qui va te les rappeler. Puis ça, ça se fait dans le silence. Dieu ne crie pas après ses enfants. Plus vous connaîtrez la parole de Dieu, plus elle va vous revenir à l'esprit. Plus elle va nourrir votre âme, plus elle va vous ranimer, plus elle va vous consoler. Mais il faut connaître la parole de Dieu quand ça va bien. Parce que quand ça va mal, on ne peut pas aller puiser dans nos souvenirs. Parce qu'on n'en a pas. Parce que la parole de Dieu n'est pas dans notre vie. Il faut qu'il y ait un travail qui se fait. Profitez-en si ça va bien. Profitez-en. Parce que viennent les temps difficiles après, on n'a peut-être même pas la force de lire la Bible. Et c'est pourtant là qu'on en aurait le plus besoin. Se lamenter devant Dieu, étaler sa plainte, pleurer, crier, faire des reproches même, c'est correct. Jérémie l'a fait, David, Josué l'ont fait, Jésus l'a fait. Jésus a exprimé ses angoisses. Mais il faut finir par se taire pour écouter vraiment. Le silence, c'est une marque de respect. C'est une marque de confiance en Dieu, de soumission. C'est une marque d'attente confiante. C'est dans le silence qu'on réfléchit. Il y a trop de bruit autour de nous. Si vous remplissez le silence de votre maison par de la musique, par la télé, ça fait pas de place pour réfléchir. Ça fait peur des fois ce qu'on entend dans notre tête. Il faut y faire face. C'est dans la tranquillité que Dieu nous parle, comme un murmure doux et léger. Le prophète Élie en a fait l'expérience. Et quelle place dans votre vie, dans la mienne, le silence respectueux et l'écoute attentive occupent dans vos conversations avec Dieu, puis avec vos proches? Êtes-vous là pour les écouter? Êtes-vous là pour écouter Dieu aussi? On a parfois tendance, avec ceux qui parlent lentement, par exemple, de vouloir finir leur phrase. Hein? Vous étiez en train de finir la mienne, hein? On a parfois tendance à vouloir finir leur phrase. On ne les laisse pas finir d'exprimer leur idée, puis déjà, on tire nos conclusions. Ça arrive? On parle à leur place. Souvent, c'est ce qu'on fait avec la Bible. On tire des conclusions hâtives et on ne laisse pas Dieu nous parler. On lit, puis on passe à d'autres choses. Mais il n'y a pas cette espèce d'intervalle silencieux. Une fois qu'on a reçu une parole, pour la digérer, pour l'accueillir en silence. C'est dans le silence que ça se fait. Dans mes conversations avec Dieu, je dois apprendre à porter attention, pas juste aux mots écrits, mais à la voix de son Saint-Esprit. Parce que quand je lis, le Saint-Esprit peut me rappeler un autre verset. Il peut me rappeler un péché, une intervention que Dieu a faite, une personne à qui je pourrais peut-être faire du bien. Ça se passe dans le silence. Mais si je ne m'emménage pas de temps de silence, je n'aurai pas toute cette richesse-là. Si je suis toujours en train de parler ou de meubler avec du bruit, je n'entendrai pas la voix subtile de Dieu qui me parle. Le silence ne doit pas être passif. À l'automne et au printemps, une chose que j'aime beaucoup, puis à chaque fois ça me remplit d'un sentiment de joie, ou de, c'est quand les outardes reviennent, hein, ou quand ils repartent. Parce que ça, ça dit, ben, printemps est arrivé, c'est vrai, là. Ça a fondu au pôle Nord, ils s'en vont là. Ou bien, c'est l'hiver qui arrive, ça a gelé au pôle Nord, ils s'en viennent. Et Je peux être dans ma maison. L'activité est ordinaire. J'entends. Je suis dans la maison. Les fenêtres sont fermées. J'ouvre la fenêtre, puis j'entends le vol d'oiseau. Puis après ça, je vais le chercher des yeux, puis je vais finir par le voir. Je tends l'oreille et j'essaye de faire abstraction des bruits autour. Quand je converse avec Dieu, c'est pareil. Je dois tendre l'oreille de mon intelligence et faire abstraction des bruits autour. Quand je garde le silence devant Dieu, je dois être attentive, active, intentionnelle. Je me tais parce que je le sais. Je m'attends à ce que Dieu me parle. Je m'attends à ce que Dieu me montre quelque chose, qu'il me rappelle à la mémoire quelque chose. C'est à ça que je m'attends. C'est pas juste que je fais mon culte le matin, j'ai lu mon chapitre, c'est beau, mon pain quotidien, ok, ça marche, j'ai prié, j'ai fait ma liste de prières, c'est tout. C'est une personne. Vous vous adressez à une personne. C'est vivant. C'est vivant. La parole est vivante. Ne partez pas comme ça sans rien faire. C'est même impoli. Il faut cultiver cette habitude-là. Ça demande des efforts de fermer ses lèvres pour écouter un murmure dans le brouhaha de nos pensées. Alors, cultiver le silence avec Dieu, avec nos proches, être plus à l'écoute, arrêter de finir leurs phrases, pas tirer de conclusions hâtives, c'est important. Ça règle aussi des mots, de nos mots. Une autre chose, j'ai mis d'utiliser un bon détergent. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Proverbe 16, 23 nous dit « Le cœur du sage rend sa bouche prudente. Son cœur rend sa bouche prudente. » OK. Ce qu'il y a dans mon cœur détermine ce qui sort de ma bouche. À mon avis, une autre source des mots de nos mots, c'est qu'on a subi un lavage de cerveau. Mais comme j'ai dans vos notes, la question n'est pas de savoir si oui ou non j'ai le cerveau lessivé, mais de déterminer par quoi mon cerveau est lessivé. Alors voici cette affirmation que je fais avec l'expérience assez maigre que j'ai des médias, mais nous avons subi toutes un lessivage médiatique. L'influence des médias et des réseaux sociaux sur mes pensées, mon cœur et mes paroles, est très, très grande. Quand je dis médias, réseaux sociaux, je parle de quoi? La télé, l'ordinateur, pardon? Les publicités, la radio, Facebook, les magazines. Les publicités qu'on peut voir sur les panneaux le long du chemin, sur des édifices, dans les toilettes, ça nous poursuit partout, partout. La publicité sur les pages web, ce qu'on entend, tout le cinéma, ce qu'on voit au cinéma dans les bandes-annonces au début, toutes les rencontres que je peux faire sur Facebook, Twitter, toutes les choses du genre. Et là, je vous parle de votre lessivage médiatique, mais pensez à vos enfants si vous en avez. L'omniprésence des médias va affecter notre façon de voir le monde, notre façon d'envisager le bien, le mal. Les médias vont influencer notre perception de la sexualité, de notre image corporelle, de notre rapport avec la nourriture. Ça va influencer notre valeur en tant que personne. Enfin, la perception de notre valeur en tant que personne. Les médias vont influencer nos habitudes de consommation, nos choix musicaux, littéraires, culturels, vestimentaires. Les médias font tout ça. On me les impose. Je suis exposée à ça presque malgré moi. Je devrais me fermer les yeux pour ne pas les voir, me boucher les oreilles pour ne pas les entendre, me couper du monde pratiquement, pour échapper à tout ça. C'est la réalité. pour les adolescents, les enfants, c'est pire encore que ce que vous connaissez. Quelle part de mon temps et de mon attention est-ce que je consacre aux médias? Alors, quand je dis médias, je parle de tout ce que j'ai mentionné, le temps à l'ordinateur, les réseaux sociaux, la télé, le cinéma, les magazines, tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, de ces choses-là. Combien de temps? Alors, il y a combien d'heures en une semaine? 168. Alors, 168 heures par semaine. Là-dessus, si on dit qu'on dort 8 heures par jour idéalement, ça nous fait 56 heures de sommeil. Il nous reste 112 heures éveillées en moyenne. C'est des heures éveillées que je passe à la maison, en auto, au bureau, dans l'autobus, dans le salon étudiant, pendant les repas. Je suis exposée à quoi? La musique? Ordi, iPod, MP3, iPhone, radio? Les messages textes? La télé pendant les repas? J'écoute quoi? Pendant ces 112 heures éveillées, j'écoute quoi? Est-ce que j'exerce un contrôle, un tri? Quand un vêtement est sale, parfois, pour faire enlever les taches tenaces, on fait tremper. Alors, je vous propose un trempage biblique, puisqu'il est question de lessivage. On va parler de trempage biblique, pour essayer de contrer un peu ce que les médias font. Sur les 112 heures que je passe éveillées chaque semaine, combien d'heures je vais consacrer à m'exposer à la parole de Dieu? OK? Fait que là, on dit, bon, le culte du dimanche matin, peut-être le soir, ça dépend des assemblées, admettons 4 heures le dimanche. C'est gros, ça. OK? On va dire 4 heures le dimanche. C'est parce que je vais être généreuse, vous allez voir. Réunion de prière une fois par semaine, peut-être une étude biblique, on rajoute 4 heures. OK? 8 heures au culte, l'étude. Admettons qu'on a un culte personnel d'une heure par jour. Je ne vous demanderai pas de lever la main. Une heure par jour de culte personnel, OK? Ça fait 7 heures par semaine. On est rendu à peu près 15 heures. Ça pourrait faire au plus 15 heures. Ou idéalement, je suis activement en train de recevoir la parole de Dieu. Parce que les médias, je les reçois passivement. Activement. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas passif. Il faut que je la reçoive activement. Donc, de mes 112 heures éveillées, il y en a 15 où je reçois activement la parole de Dieu. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Il m'en reste combien d'heures? 97. 97 heures par semaine. Je suis au travail, aux études, je fais du covoiturage, je fais mes commissions, je mange, je fais mes repas, je fais le ménage, je vais sur Internet, je lis des romans, des magazines, je fais du sport, je fais de la musique ou j'en écoute. Pendant ces 97 heures-là, je suis exposée à quoi? Si je ne suis pas activement et délibérément en train de m'exposer moi-même à la parole de Dieu, ce sont les médias, leur système de valeurs, qui vont prendre le dessus. Et c'est ce qui arrive dans la vie de vos enfants. S'ils ne sont pas activement, si vous ne les encouragez pas à s'exposer activement et délibérément à la parole de Dieu. Il faut tremper. Il faut tremper à quelque part. Si je veux soigner les maux de mes maux, mon cœur, il faut qu'il se passe quelque chose à quelque part. Puis si je ne prends pas les moyens pour le faire, il n'y a absolument rien qui va se passer. Vous allez juste essayer de, comme j'ai dit tantôt, de réformer votre conduite, mais il n'y aura pas un vrai changement durable qui va se produire. Romains 12, 2 nous dit, dans la version Parole de vie, « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. » Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Il faut marcher à contre-courant, faut nager à contre-courant. Faut nager à contre-courant. Et nager à contre-courant, ça demande des efforts. C'est tellement facile de se laisser aller en se coulant. Tu sais, tu mets les rames dans le canot, puis tu files. Mais non, c'est justement le contraire. Parce que Dieu ne nous impose pas sa parole. Philippiens 4:8 nous dit ce qui doit faire l'objet de nos pensées. Toujours dans la version Parole de vie, Voici ce qui devrait vous intéresser, tout ce qui est vrai, qui mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et qui mérite des félicitations. Voilà ce qui devrait être l'objet de nos pensées. Ça demande des efforts pour le faire. Je dois renouveler mon intelligence. Je dois centrer mes pensées sur ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste. Ce sont de ces choses-là que ma bouche va parler. Si mes pensées sont tournées vers ces choses-là, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'overflow de mon cœur va paraître sur mes lèvres. J'ai trouvé ça intéressant en regardant dans mon logiciel de français. La trempe du métal trempé, l'acier trempé. En métallurgie, c'est un traitement qui consiste à immerger dans un bain froid un métal ou un alliage, d'abord chauffé à haute température, pour en augmenter la dureté et la solidité. Alors, pour qu'une épée soit vraiment efficace, il faut la tremper dans de l'eau très froide après qu'on l'ait forgée à une haute température. On la trempe dans un liquide très froid. Ça lui donne de la dureté. Alors, si vous voulez que la lame dans votre bouche soit bien aiguisée et très solide, pas comme une langue de vipère, pleine de venin, mais aiguisée pour être utile, efficace et solide, c'est important de la faire tremper. Et bien entendu, l'eau dans laquelle vous la ferez tremper, c'est celle de la parole de Dieu. Et je veux vous donner plusieurs activités à faire, c'est dans vos notes, mais je veux les voir une à une, que vous pouvez faire avec la parole de Dieu, puis faire avec votre conjoint, vos enfants, à l'école du dimanche, en groupe, quand vous êtes ensemble, votre réunion de prière. Dans Josué 1:8, bon, j'ai mis « lire à voix haute et réciter ». Personnellement, vous avez pu le constater, j'aime lire la Bible à voix haute. Je fais ça toute seule dans ma chambre. Ce que je vous ai fait ce matin, je fais ça toute seule, je le fais pour moi parce que ça me parle. C'est comme un écho, on l'entend deux fois. À l'époque de Josué, les gens lisaient à voix haute. Et ils lisaient à voix haute pour le bénéfice de tous ceux qui n'avaient pas accès au rouleau. Et les gens mémorisaient ce qui était dit. C'est avantageux de lire la Bible à voix haute. Parce que là, on l'entend deux fois. Il n'y a rien contre la lire en silence. Puis si vous dites, oh oui, j'aimerais ça faire ça, mais il y a tout le temps quelqu'un dans la maison, ben, allez dans le fond de la cour, ou allez dans l'auto, ou dans la salle de bain. Mémorisez. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Quand la parole est gravée dans notre cœur, on a un accès facile. L'esprit peut nous le rappeler plus facilement. Quand ça va mal, quand on n'a plus le courage ou la force de lire, ce qu'on a mémorisé nous revient à l'esprit. Plus on a de la facilité, plus on mémorise, plus c'est facile. Les versets que vous avez chantés, il y en a que vous connaissez par cœur, vous les avez appris. Il faut dire, oh, moi je ne suis pas capable, c'est difficile. Non, vous êtes capable de mémoriser des recettes, des chansons, des adresses, des dates, vous êtes capable de mémoriser des versets. Il faut les lire, les relire souvent, les écrire sur des fiches, les garder à portée de la main. Méditer, toujours dans Josué 1:8 et Jérémie 15:16, méditer c'est ruminer, réfléchir longuement, réfléchir profondément sur quelque chose. Alors la parole de Dieu, Dieu a dit à Josué, médite le livre jour et nuit, pensez-y, réfléchis à ces choses-là. Faites des liens avec ce que vous lisez et votre propre vie. Voyez comme les enseignements de Jésus sont pertinents, mais il faut réfléchir pour l'avoir la pertinence. Il ne faut pas lire de façon superficielle. Étudier, là on va une coche plus haut. On va lire, ben non, une coche plus haut, non, c'est différent, c'est des activités différentes. On va lire, on va mémoriser, on va méditer, on va l'étudier. Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Étudier, c'est porter une attention sur des connaissances pour les acquérir. C'est essayer de comprendre. On va examiner comme il faut tous les éléments, la structure, le fonctionnement, puis on va essayer de le comprendre, on va observer avec soin. Quand on étudie les Écritures, c'est comme si on regarde un texte sous toutes ses coutures. Puis il y a plein de livres sur Internet, des index bibliques, toutes sortes, vous pouvez avoir accès à toutes sortes d'outils pour mieux comprendre un texte. Enseigner, dans Deutéronome 6, ça dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ce que je te dis, tu vas l'enseigner à tes enfants. dans toutes sortes de situations. Enseigner les Écritures, ça aide nous à nous plonger dedans quand on l'enseigne. 1 Timothée 4, les versets 13 et 15, Paul dit à Timothée, « Applique-toi à lire les Écritures, à encourager, à enseigner. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Enseigner, c'est communiquer nos connaissances. Enseigner, c'est une excellente façon pour nous d'apprendre et de grandir. Là, je vous partage à peine 3 heures de ce que j'ai étudié, médité, réfléchi pendant des mois. Vous recevez juste une petite partie. Mais pour moi, personnellement, je suis beaucoup plus enrichie par toute l'étude que j'ai faite que vous ne le serez jamais par les 3 petits messages que j'ai faits tantôt. Je suis gagnante quand j'étudie pour enseigner. Vous pouvez enseigner à vos enfants, à un nouveau croyant. Vous pouvez enseigner dans toutes sortes de circonstances, c'est de partager vos connaissances, de montrer ce que vous savez, d'avoir une longueur d'avance, d'en apprendre un peu plus à chaque fois, puis de le partager, c'est pas compliqué. Ce que vous savez, partagez-le. Chantez, on le fait. Le verset Colossiens 3:16, que la parole de Christ habite en vous, instruisez-vous, avertissez-vous, chantez. Chantez des psaumes, chantez des hymnes, des cantiques spirituels. Vous pouvez chanter les doctrines de la Bible. Ça commence à revenir des bons cantiques avec un peu plus de contenu. Et ça, c'est intéressant. On peut chanter les promesses de Dieu et ses consolations. On peut célébrer les hauts faits de Dieu. Faut-il se lever tôt pour le faire? David, dans les versets qui sont dans vos notes, David dit, « Je devance l'aurore pour implorer ton aide. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Il faisait ça avant que le soleil se lève. C'est un bon moment parce que la plupart du temps, les gens ne le font pas, puis on est tranquille. Des fois, surtout quand les enfants sont jeunes, on est en manque de sommeil. Ce n'est pas toujours possible de se lever très tôt pour le faire. Mais je me souviens quand j'allaitais mes bébés, souvent la nuit, c'était des moments précieux. Parce que tout était tranquille, puis j'étais avec mon bébé. Puis, qu'est-ce qui m'empêche de prendre la Bible, de lire, de prier, de méditer? Puis je récupérais mon sommeil plus tard en faisant la sieste en même temps que mes enfants. Quand le Seigneur me tient réveillé la nuit, soit que je tourne en rond, que je prends un livre, que je vais à l'ordinateur, soit que j'exploite les moments, ces moments-là, pour me rapprocher de Dieu. Si vous souffrez d'insomnie, faites quand même attention, faites preuve de discernement, parce qu'un manque de sommeil chronique peut vous mener tout droit à l'hôpital. Alors, faites attention à ça, faites preuve de discernement. Mais profitez de tous les moments que Dieu vous donne, parce que si vous ne le faites pas, vous subirez autre chose. Vous subirez ce lavage de cerveau médiatique, si ce n'est pas déjà fait, et ça va demander des efforts pour reconditionner votre cerveau. C'est comme un reformatage de disque dur. Okay? Il y a déjà, des fois, il faut tout reformater, partir à neuf, pour avoir de nouvelles choses, pour partir sur la base de la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. Plus j'apprends à connaître et à utiliser l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, plus je suis en mesure de maîtriser la lame qui est dans ma bouche. Alors ma parole va toujours être pleine de grâce, assaisonnée de sel, et je saurai toujours comment il faut répondre à chacun. Et en plus, vous serez une source de bénédiction pour les autres. Dans vos notes, il reste 2 pages. Ce sont des réflexions qui me sont venues et dont je ne voulais pas parler. Alors, libre à vous d'en discuter avec des amis, ou personnellement, si ça vous tente, de voir d'autres points qui pourraient être connexes aux mots de nos mots. Mais on va terminer ici. Je finis avec un mot de prière. Alors, s'il vous plaît, on va se recueillir. Seigneur Jésus, je te remercie beaucoup. Merci parce que c'est toi la parole vivante. C'est toi, Jésus, qui est la parole faite chair, l'expression de Dieu, que les apôtres ont pu voir, toucher, contempler. Merci Jésus d'être vivant dans nos vies par ton Saint-Esprit. Merci pour tous ces mots écrits que nous avons. Merci pour ton Saint-Esprit aussi qui nous les rappelle. Je veux te prier pour mes sœurs, afin que tu puisses sanctifier leurs lèvres, mais surtout remplir leur cœur. Leur montrer les choses qu'elles ont changées, les encourager les encourager à persévérer dans les bonnes dispositions qu'elles ont, dans les bonnes choses qu'elles font, les encourager à faire des progrès aussi. Merci parce que tu nous aimes d'un amour infini, inconditionnel, puis que tu veux nous former à ta ressemblance. Merci d'être si patient envers nous. Que ta parole, Seigneur, ne soit pas stérile dans nos vies, mais qu'elle soit efficace. Et qu'on puisse être des sources de joie pour les gens qui nous entourent, qu'on puisse leur faire du bien par nos paroles. Je te prie ces choses, Seigneur, en sachant que tu seras glorifié et en comptant sur ton aide. En ton nom. Amen.